19h, le journal d'Europe 1. Le pass vaccinal entre bien en vigueur lundi prochain. Le Conseil constitutionnel valide, sauf pour les meetings politiques.
En revanche, les cafetiers et restaurateurs pourront en théorie vous demander vos papiers en cas de doute. Sont-ils prêts à le faire ? Reportage à suivre. Les sondages de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy, 8 mois de prison ferme pour Claude Guéant, qui fait appel. Il est déjà incarcéré depuis un mois dans une autre affaire. Et puis, Bercy cogite face à la flambée des prix du carburant, mais pas d'aide rapide à espérer.
La tendance météo, Valérie Darmon, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous. Beaucoup de brouillards givrants sur les deux tiers nord en matinée demain, parfois tenaces, qui vont laisser derrière eux nombreux nuages sur l'est, quelques éclaircies à l'ouest et du beau temps au sud.
Merci Valérie, on vous retrouve à la fin de ce journal. Les sages, ils ont dit oui, finalement. Ils valident l'essentiel du projet de loi sur le pass vaccinal.
Oui, il ne manquait en effet que cette validation pour que le fameux pass puisse entrer en vigueur lundi. Les plus de 16 ans devront donc montrer que leur vaccination est à jour pour accéder à toute une série d'activités, Jacques Serret.
Oui, loisirs, restaurants et bars, foires ou transports publics interrégionaux. Pour tout cela, un pass vaccinal sera nécessaire. Le seul test négatif ne suffira plus. Et désormais, les vérifications d'identité seront possibles. Les sages ont validé cette disposition permettant aux cafetiers, aux restaurateurs de vérifier la concordance entre le pass vaccinal et celui qui le montre. Exception uniquement pour accéder aux établissements et services de santé où là, le pass ne sera pas exigé. En revanche, et c'est une mesure du Conseil constitutionnel dans ce projet de loi, une censure, pardon, du Conseil constitutionnel, les organisateurs de meetings politiques ne pourront pas demander le pass sanitaire aux participants. Ils pourront simplement prendre des mesures de précaution sanitaire, telles que la limitation du nombre de participants, la distribution de masques ou l'aération des salles. Validé en grande partie aujourd'hui, le pass vaccinal sera donc déployé à partir de lundi, comme annoncé hier par Jean Castex.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
À partir de lundi, il faudra donc montrer patte blanche pour aller boire un café, dîner au restaurant, assister à une pièce de théâtre ou encore se faire un ciné.
Oui, mais on sait que certains petits malins empruntent le QR code de quelqu'un d'autre. On l'a dit, le Conseil constitutionnel autorise tous ses professionnels à effectuer des vérifications d'identité en cas de doute. Vos papiers, s'il vous plaît. Les restaurateurs comptent-ils appliquer la mesure ? Réponse avec ce reportage de Wilfried De Villers dans les rues de Paris.
Non, je le ferai pas, parce que j'estime que c'est pas mon rôle et je le ferai pas.
Stéphane Mallet est restaurateur, patron du Relais Charbon, dans le 15e arrondissement de Paris.
Même si j'ai un doute, parce que je trouve que c'est... Moi, je suis pas policier, je suis pas là pour ça. Déjà, de contrôler les passes vaccinales et tout ça, voir si c'est des tests PCR et tout, enfin bon. Chacun son métier, on nous demande de contrôler ci, on nous demande de contrôler ça, et en plus, on a du mal à trouver le personnel avec toutes ces contraintes, déjà. Alors si en plus, on vient nous greffer ça... Soit les gens ne connaissent pas le métier, ceux qui prennent ces décisions, ou soit ils sont incompétents à tous les niveaux. Quoi.
Comme Stéphane Mallet, plusieurs restaurateurs du quartier m'ont affirmé qu'ils ne comptaient pas réaliser ces contrôles d'identité. Un rôle qui n'est pas le leur, selon eux, et une sacrée galère logistique. C'est ce que nous explique Daniel Durand, manager du relais du 15e, à la fin de son service.
Avec le pass vaccinal, si on doit demander les pièces d'identité en plein rush à 12h30, 13h, c'est impossible. Ça sera ingérable. Pour contrôler vraiment, c'est vraiment qu'on a un gros doute et qu'on ne va pas mettre en péril la santé de nos clients. Quoi. Mais il faut vraiment avoir un gros doute.
Des contrôles qui devraient donc rester marginaux, d'autant que si les restaurateurs auront dès lundi le droit de vérifier l'identité de leurs clients, ils n'en auront pas l'obligation.
Ah, Wilfried De Villers. À Lyon, un couple est mis en examen pour avoir écoulé plus d'un millier de faux passes sanitaires. L'homme est derrière les barreaux. Ils avaient réussi à pirater le compte professionnel d'une infirmière de Gironde. 9000 euros en cash ont été retrouvés chez eux, ainsi qu'une vingtaine de téléphones portables.
Et puis la première pilule anti-Covid vient d'être autorisée en France.
Oui, la Haute Autorité de Santé donne son feu vert au Paxlovid, médicament de Pfizer contre les formes graves. Yasmina Katou, il faut bien préciser qu'il est destiné aux populations les plus fragiles.
Oui, le Paxlovid sera exclusivement réservé aux personnes très âgées, immunodéprimées ou encore aux personnes atteintes de maladies rares. En fait, toute personne qui risquerait de développer une forme grave. Selon le laboratoire Pfizer, le Paxlovid réduit de 85% le risque de se retrouver en soins critiques ou de mourir du Covid. Le traitement est sous forme de gélules. Il faudra en prendre 3 par jour pendant 5 jours. Il est recommandé de le suivre dès le diagnostic et au maximum dans les 5 jours suivant l'apparition des symptômes. Comme pour une prescription classique, il suffira de se rendre chez son pharmacien muni d'une ordonnance de votre médecin. À noter que l'antiviral est contre-indiqué, notamment pour les personnes atteintes d'une insuffisance rénale ou hépatique. Les premières livraisons de pilules dans les pharmacies sont attendues la semaine prochaine.
Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1.
19h06, l'actualité l'actualité ce soir sur Europe 1, c'est aussi cette nouvelle condamnation à de la prison ferme pour Claude Guéant.
Âgé de 77 ans, ex-premier flic de France, proche de Nicolas Sarkozy, il écope de 8 mois dans l'affaire des sondages de l'Élysée, peine prononcée avec un mandat de dépôt différé, Gladys Laffitte.
Oui, une peine de prison qui n'est pas aménageable mais qui ne devrait pas être exécutée pour le moment puisque l'avocat de Claude Guéant a annoncé faire appel de cette condamnation. L'ex-ministre de l'Intérieur a refusé d'être présent dans le box aujourd'hui. Il est incarcéré depuis mi-décembre dans une précédente affaire et sera fixé sur sa demande de sortie le 7 février. Dans tous les cas, la sanction est forte, estime Jérôme Carsenti, avocat de l'association anticorruption Anticor qui a fait éclater l'affaire des sondages.
On admet tout à fait que le voleur de bobylettes aille en prison. On n'admet pas que les plus hauts responsables de l'État, qui ont commis des infractions lourdes de conséquences pour la probité publique, finalement subissent les foudres de la justice. Et bien la justice vient dire, elle est égale pour tous, que l'on soit misérable ou que l'on soit puissant.
Effectivement, le tribunal a eu des mots durs envers Claude Guéant qui a, je cite, « persisté dans un comportement délinquant ». Il a consciemment violé les règles de la commande publique pour enrichir frauduleusement des personnes proches de Nicolas Sarkozy. Sa brillante carrière administrative, dit le tribunal, aurait dû l'empêcher de faillir à son devoir de probité. Des agissements tout simplement intolérables, dit la justice aujourd'hui.
Gladys Laffitte.
Gagner ensemble l'actualité politique, c'est cette opération retrouvaille aujourd'hui entre Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez. C'était en Haute-Loire, évidemment.
Retrouvaille parce que Valérie Pécresse avait quitté LR pour des désaccords politiques en 2019, le jugeant trop à droite. C'était donc la première sortie publique commune de la candidate des Républicains et du président de région. Occasion d'oublier les critiques du passé et de jouer la carte de l'unité, Alexandre Chauveau.
Oui, l'opération réconciliation a été savamment organisée par les équipes de la candidate et celle de Laurent Wauquiez. Celui-ci joue les guides touristiques sur ses terres avant d'inaugurer la réunion publique où il tente de dissiper les doutes sur son implication dans la campagne.
Le soutien que je voulais te marquer, je voulais le faire dans ce qui incarne notre conception de ce qu'est l'engagement politique. Un engagement que nous avons toujours construit, que ce soit toi ou moi, à partir du terrain et avec le fait de s'astreindre à faire et à réaliser les choses.
Laurent Wauquiez met en avant le terrain et l'action politique, un point commun qu'il se trouve avec Valérie Pécresse, comme pour mieux oublier les divergences du passé. Mais la page est tournée, affirme la candidate, qui clôt ce soir une semaine axée sur la ruralité et va même jusqu'à prononcer le serment du Puy-en-Velay.
Le serment du Puy-en-Velay, c'est que désormais, quand il y aura un euro qui sera dépensé pour la politique de la ville, eh bien, il y aura un euro qui sera dépensé en investissement pour la ruralité de France.
L'objectif, casser son étiquette de parisienne que ses détracteurs lui assignent, tout en donnant des gages à un poids lourd du parti, avec qui les relations étaient plutôt fraîches jusqu'ici.
Alexandre Chauveau, Puy-en-Velay pour Europe 1. Quant à Éric Zemmour, il est en visite dans les Alpes-Maritimes. Il maintient ses propos sur le maréchal Pétain qui aurait sauvé des Juifs, estimant avoir raison historiquement. On veut me refaire le coup de François Fillon, dit-il.
On marque une pause dans le journal d'Hélène Zelani. On va s'intéresser au prix des carburants qui flambent. Bercy réfléchit à des solutions. Encore faut-il que cela ne coûte pas trop cher.
Europe Soir, Lionel Gougelot.
19h10 sur Europe 1, la suite du journal d'Hélène Zelani. Hélène, on le sait, les prix à la pompe sont une sérieuse préoccupation en ce moment pour les automobilistes.
Oui, et le gouvernement veut tenter d'agir pour soutenir le pouvoir d'achat des Français qui en ont le plus besoin. Est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau coup de pouce, Maud Descamps?
Eh bien, a priori, pas dans l'immédiat. Vous savez que tout le monde n'a pas encore touché le chèque inflation de 100 euros, notamment les retraités qui gagnent moins de 2000 euros net par mois et qui le recevront en février. Donc, dans l'entourage du ministre, on temporise. Il n'y aura pas de nouvelles mesures à annoncer après ce week-end, indique-t-on. Mais les prix montent. Il est donc normal que nous y soyons attentifs, m'a-t-on dit. Le gasoil s'affichait ce matin 1,62 €, le sans-plomb 95 à 1,70 €, selon les données de l'Union française des industries pétrolières. Si toutefois Bercy décidait d'un nouveau coup de pouce dans les prochaines semaines, plusieurs pistes pourraient être envisagées. Mais attention aux dépenses publiques. Les mesures pour contenir la facture d'électricité des Français ont déjà coûté 8 milliards d'euros à l'État. Bercy doit donc réfléchir à des solutions peu coûteuses. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire n'a pas exclu l'idée d'offrir la possibilité de déduire son forfait kilométrique de ses impôts, ce qui permettrait de ne cibler que les automobilistes.
Merci Maud.
Et l'on découvre maintenant que la 5G et les avions ne font pas bon ménage, au point qu'aux États-Unis, une dizaine de compagnies aériennes américaines ont menacé d'annuler purement et simplement des milliers de vols.
Oui, le déploiement de cette technologie près des tours de contrôle pourrait perturber certains instruments de bord. Du coup, les opérateurs ont accepté de ne pas activer leur relais près des aéroports. Aurélien Fleureau, est-ce qu'on doit s'attendre à la même chose en France ?
Alors, il faut d'abord savoir que les fréquences utilisées en Europe et aux États-Unis ne sont pas exactement les mêmes. En France, elles sont plus basses, donc il y a moins de risques d'interférence sur les radioaltimètres, ces radars qui permettent aux avions de connaître la distance précise avec le sol. Et puis surtout, les autorités ont pris les devants depuis de longs mois. La Direction générale de l'aviation civile a mis en place des zones de protection autour des 17 plus grands aéroports français. Un principe de précaution qui n'avait pas beaucoup plu à Orange, SFR, Bouygues Télécom ou Free, mais cela devrait maintenant permettre un déploiement plus serein de la 5G, selon Gilles Brégand, directeur général de l'Agence nationale des fréquences.
Il y a peut-être une prise de conscience qui est un peu plus tardive du côté américain entre les différentes administrations concernées, mais c'est un problème technique qui a une solution technique. Et en France, on est en train d'arriver, je pense, au bout de ces tests. Et je pense que dans quelques mois, on pourra lever les mesures transitoires en constatant que les radioaltimètres et donc les avions fonctionnent bien en présence de 5G, bien sûr.
La situation devrait être normalisée mi-2022, le temps d'harmoniser les règlements au niveau mondial.
Aurélien Fleureau, du côté des trains, attention si vous devez voyager en Nouvelle-Aquitaine lundi. Une grève des aiguilleurs va fortement perturber le trafic régional, mais aussi celui des TGV. Annulation de 85% des Paris-Bordeaux. Aucun TGV au sud de Bordeaux vers Hendaye et Toulouse.
Le sport maintenant, le football, c'est l'événement du week-end. Sepp Blatter est sur Europe 1.
Et oui, l'ancien président de la FIFA nous a accordé sa première grande interview depuis 2 ans. Cyril de la Morinerie, il s'exprime sur tous les dossiers du foot et notamment sur son successeur.
C'est ça, hein, comme vous l'avez entendu dès ce matin en exclusivité sur Europe 1, Sepp Blatter étrille Gianni Infantino, je cite « Il n'est pas un bon président, il ne fait pas du bon travail et si on parlait ensemble, je le réveillerais ». Le Suisse de 85 ans regrette également le déménagement de son successeur au Qatar. Sa place est à Zurich, tacle donc Sepp Blatter sur Europe 1. Même rivaux à l'époque, Blatter aurait préféré que Michel Platini prenne les rênes de la FIFA plutôt que l'Italo-Suisse.
Enfin, on aurait eu un président footballeur à la FIFA. Je pense qu'il aurait été bien. En tout cas, et il aurait respecté son prédécesseur.
Mais cette fameuse affaire, le FIFA Gate, est passée par là. Sepp Blatter et Michel Platini ont été suspendus. L'ancien président de la FIFA affirme d'ailleurs de nouveau sur Europe 1 qu'il est innocent. Lors de cet entretien exceptionnel d'une quarantaine de minutes accordé à Europe 1, l'ancien patron du football mondial déplore également le projet d'une Coupe du Monde tous les 2 ans.
Mais c'est une imbécilité sans nom de jouer à la Coupe du Monde tous les 2 ans. Mais maintenant, aujourd'hui, où le calendrier est déjà tellement surchargé, on ne peut pas. Ce n'est pas bon pour le football.
Voilà, Sepp Blatter au micro Europe 1 de Lionel Rousseau, également un avis très tranché sur le Ballon d'Or. Lionel Messi ne le méritait pas. Le Suisse estime que Karim Benzema aurait dû décrocher ce trophée si convoité.
Extrait de cette interview à 20h dans le studio des Légendes, Cyril de la Morinerie. Et ne manquez pas la diffusion en intégralité dimanche soir. Il y a du foot sur le terrain, ce soir en Ligue 1. C'est un derby Lyon-Saint-Étienne. Et puis c'était une star du rock des années 70. Meat Loaf est mort à 74 ans. Son album Bout Out of Hell, c'est dur à dire, est l'un des plus vendus de tous les temps. Plus de 43 millions d'exemplaires. Millions. On le connaissait surtout pour ce titre. Voilà, extrait de « I would do anything for love », Meat Loaf.
Disparu à l'âge de 74 ans. Là, encore une page du rock américain qui se tourne. Merci Hélène Zellani, bonne soirée. On vous retrouve lundi. On va retrouver la météo de Valérie Darmon pour demain. Bonsoir ma chère Valérie. La situation évolue peu finalement hein, pour cette journée de demain samedi.
Effectivement Lionel, avec toujours une très très belle journée en montagne, en région PACA, en Languedoc-Roussillon. Les quelques bancs de brouillard matinaux présents le long de la Garonne vont aussi se dissiper dès la mi-journée relativement rapidement. Et puis le beau temps qui va gagner le Poitou-Charentes au fil des heures, voilà pour le sud.
Et le reste du pays ?
Eh ben c'est moins bien, c'est moins bien. C'est toujours la grisaille qui domine, même si les éclaircies tentent de percer ici ou là au travers d'une couche nuageuse souvent bien grise. Il peut aussi neiger un petit peu tôt demain matin vers la Lorraine et l'Alsace. La région parisienne est pile entre les deux, au ciel très bas le matin et plus variable l'après-midi. Et puis surtout attention aux brouillards givrants qui peuvent rendre les chaussées glissantes tout au long de la matinée.
Les températures, j'ai l'impression qu'elles restent froides.
très froide. Les gelées sont généralisées dans l'intérieur de la France. Les minimales seront comprises entre 0 et moins 6, pas plus d'un degré sur le bassin d'Arcachon, 6 à 7 au sud, et puis les maximales entre 3 et 6, 6 à 8 sur la façade atlantique et jusqu'à 13 en Méditerranée. Elles sont tout simplement hivernales.
Effectivement. Merci Valérie Darmon. Bonne soirée. Il est 19h17 sur Europe 1. Restez avec nous dans un instant. L'invité d'Europe Soir, Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques, candidat pour la deuxième fois à l'élection présidentielle.